Merci Mélissa, merci. Donc la suite, on l'apprendra vendredi, on aura l'occasion d'y revenir avec la première de ce spectacle Ghost Dance à la Maison Folie Moulin. On apprend en lisant ta biographie que tu es le fruit de l'union improbable entre une montagnarde du Kentucky et un rebelle irlandais à la Don Quichotte. En quoi ces racines-là, elles ont enrichi ton univers artistique ?
Mais ma mère vient des Appalaches, comme je le dis, de Kentucky. C'est un terrain qui est très fertile à l'imaginaire. Là-bas, ils ont pas mal de géants et puis pas mal d'histoires d'escroquerie, de magie, de descendre les rivières, d'aller dans les tunnels aussi, les mines qu'il y avait là-bas, qui sont très très importantes. De l'autre côté, mon père, ses ancêtres viennent de l'Irlande. Et il a conservé tout à fait cette habilité à inventer sur le tas un peu tout et n'importe quoi, y compris son propre histoire. D'ailleurs, nous, on a mis très très longtemps, enfant, à comprendre d'où il venait exactement mon père et ce qu'il avait fait dans sa vie, parce que c'était un peu abracadabrante. Et donc, il peuplait mon imaginaire, toute mon enfance, avec ces lubies-là.
Et donc, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans une carrière artistique ? Tu as commencé par le théâtre, je pense.
Oui, tout à fait. J'ai commencé par le théâtre. Écoute, j'ai commencé, je ne sais pas, le malheur ou le bonheur de n'avoir jamais rien fait d'autre que ça. Parce que toute jeune, j'ai commencé à chanter du country. Et j'aimais beaucoup la scène. Et puis j'ai eu des propositions de chanter, même adolescent, dans différents groupes et de tourner un petit peu. Et puis je suis allée à une grande conservatoire de théâtre à New York, qui m'a expliqué que chanter c'était pas très noble, que il fallait apprendre le métier de la scène, Stanislavski, l'acteur studio, etc. et tout ça. Et donc j'ai arrêté de chanter pendant une longue période et j'ai fait du théâtre.
Et d'ailleurs, tu as encore une compagnie, hein, qui s'appelle, je crois, la compagnie Move.
Oui,
hein,
c'est ça. J'ai toujours la compagnie Move.
Qui propose encore des créations mêlant théâtre, cirque, conte, danse. Tu peux nous parler un peu de ce travail-là. On viendra au travail à proprement parler du conte par la suite.
Très bien. Eh bien, justement, en fait, j'ai créé cette compagnie quand je suis rentrée de Californie. J'avais continué ma formation de théâtre avec la danse, avec le théâtre expérimental, etc. Et je suis venue et j'avais l'envie de mélanger différentes disciplines pour créer des spectacles. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire là-dessus. J'ai travaillé avec le Cirque de l'Homme, j'ai été soutenue par différents partenaires à Lille, Maison Folie Moisin, Moulin, etc. Et surtout, j'étais très inspirée par les expériences que j'avais faites. Par exemple, quand je suis allée en Nouvelle-Calédonie, travailler avec les Kanaks pour monter des spectacles, des comédiennes et des musiciens Kanaks, des danseurs. Et j'avais envie aussi de retrouver des gens pour travailler qui venaient de différents horizons. Donc c'est ce que j'ai fait à Lille, dans un premier temps.
À quelle époque est-ce que tu t'es mis à raconter? Alors la pratique du conte, elle est revenue peut-être à quel moment?
Mais alors, dans mon parcours qui sillonne, hein, assez, je suis partie de Lille pour vivre un temps en Irlande. C'était un rêve que j'avais toujours eu et j'ai eu une possibilité de le faire. Et quand je l'ai fait, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. C'est que j'avais eu un emploi, au fait, à l'université de Cork. Et pour tout vous dire, je n'avais pas de plan après cette embauche à l'université de Cork. Donc j'ai travaillé et à la fin de l'année, je n'avais plus d'emploi et je me suis dit, aïe, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'étais en plus dans une maison que j'avais louée magnifique au bord de la plage, mais elle devenait très très chère en été et il fallait que je quitte cette maison. Je ne pouvais plus le payer parce que le loyer que je payais par mois devenait le loyer que je payais par semaine. Et en plus, cet été, j'étais seule avec mes deux enfants, très, très jeunes. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution, là. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent, que je trouve une maison et que je fasse quelque chose de chouette avec mes enfants pour l'été. Et j'étais vraiment bloquée. Alors, à ce moment-là, comme des choses sont étranges dans la vie, passé devant ma fenêtre, je regardais par la fenêtre et là, j'ai vu une caravane. Alors, pas une caravane moderne, mais un de ces vieux caravanes avec un fermier dessus, avec un espèce de truc qui couvre la caravane. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chouette, hein, le vieux temps. Et puis, si j'avais une caravane, ce serait bien, on pourrait vivre dedans. Hein. Et puis, je pourrais offrir à mes enfants des vacances. Et puis, je dis, ah, mais je pourrais raconter des histoires dans la caravane. Ouais. Et au fait, ça s'est fait très vite. Je suis allée à Cork, j'ai même osé demander une petite subvention. J'ai dit, j'ai une idée, je veux faire une caravane, je veux aller dans des petits villages et raconter des histoires. Et elle a dit, écoute, ça a l'air pas mal comme plan. Elle m'a donné 2000 euros et avec un gars qui a vécu dedans toute sa vie, et on a construit cette caravane et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec mes deux enfants, on est allé partout en Irlande, dans les villages. On s'est bien amusé. On a pris pas mal de pluie quand même, il faut le dire. Et puis j'ai raconté des histoires et tout a commencé à partir de là.
Quelles histoires racontais-tu alors les premières histoires que tu as racontées, voilà. que tu as eu envie de raconter, ce sont lesquelles?
Alors écoute, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Hein, mais bon... Je n'avais pas de formation de conteuse tout au début, tu vois. J'ai fait ça après. Et alors, j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire. J'ai inventé sur le tas mes histoires de toutes pièces. Je crois que, heureusement que j'avais eu le père et la mère que j'avais et la famille complètement disjonctée qui m'ont permis de, je ne sais pas, être assez folle pour faire un truc pareil. Parce que au final, ça a porté ses fruits. Et puis, je suis ravie aujourd'hui de faire ce métier. Donc, oui, je suis partie avec ma caravane et de toutes pièces avec les enfants qui étaient dans la caravane là. J'ai inventé un peu de tout et de n'importe quoi.
Et tu as dit qu'ensuite tu avais pensé à te former. Quelles ont été les formations que tu as suivies? C'est avec des artistes irlandais ou français?
Oui, j'ai travaillé avec Liz Weir et Kate Murphy, qui viennent du nord de l'Irlande, qui sont des conteuses de très très longue date, très établies dans la profession. Après, je suis allée en Suisse, au festival de Fribourg. Toi-même, je pense que tu n'étais pas très loin, il n'y a pas très longtemps.
C'est possible.
Et que tu as compté là-bas. Eh bien, là, j'ai entendu de très grandes conteurs et j'ai pu me former un petit peu par la suite aussi avec des gens de la région, comme Pierre Dely. Alors, ce n'est pas une formation que j'ai suivie, mais il m'a aidée pour mes spectacles et aussi avec Marie Prêtre de la Vache Bleue et maintenant, actuellement, surtout avec Alberto Garcia Sanchez qui m'a aidé énormément pour créer ce spectacle Ghost Dance.
On va y revenir dans quelques instants à Ghost Dance. Les gens auront remarqué que tu racontes, en tout cas tu nous as raconté un petit morceau de Ghost Dance en français avec des passages en anglais. Moi la question que je me pose c'est comment ça se passe le passage de l'anglais au français et quand tu crées des histoires dans ton esprit, elles se créent en anglais, elles se créent en français. Est-ce que les histoires que tu racontes, tu les racontes dans les deux langues et quelles sont les différences finalement et comment te viennent les histoires, elles te viennent en anglais ou en français?
Oui, ça c'est une bonne question. Alors actuellement en France, ils viennent en français au fait. Ils viennent en français parce que le conte, c'est l'envie de communiquer quelque chose. Donc moi je suis entourée des Français et j'ai envie qu'ils comprennent quelque chose que j'ai dans la tête. Et cette chose que j'ai dans la tête, il n'a pas une langue particulière, il a plus cette image ou c'est un sentiment. Et bien pour exprimer ce sentiment ou cette image, les mots que je trouve, c'est les mots des gens qui sont autour de moi. Et voilà, donc là c'est en français, mais c'est vrai que par exemple, si je suis en Irlande ou aux États-Unis, c'est l'anglais qui va venir. Parce que avant tout, c'est l'envie de dire aux autres.
Ouais. Est-ce que tu passes d'ailleurs par une phase écrite sur tes spectacles ou est-ce que certaines histoires sont directement créées à l'oral?
Alors, maintenant j'écris tout. C'est vrai que en anglais au début, j'inventais de toutes pièces et j'ai expérimenté un truc qui était sympa, c'est que bon, effectivement, dans la caravane, j'ai tellement raconté, re-raconté des histoires que j'ai fini par trouver une espèce d'écriture à l'oral, comme on fait en français. C'est quand même pas ma langue natale, hein, disons-le, ça s'entend, et c'est pas aussi facile. Donc, effectivement, j'ai tendance à écrire, mais là, par exemple, pour Ghost Dance, là, j'ai écrit plus que je n'ai jamais écrit. J'ai vraiment écrit avec Alberto, avec Elodie Claes, avec Caroline Kranskens, qui est une poète, Elodie, qui est une réalisatrice, et Rémi Boiteux, un écrivain. Donc, nous avons, ils m'ont aidé énormément. Écrit tous les mots du spectacle. Mais j'espère que ça s'entendra pas comme quelque chose de figé. Au contraire, j'essaie de le ramener dans le langage parlé.
Donc on a la chance donc d'avoir aujourd'hui sur cette émission quelqu'un qui a expérimenté pas mal de publics. Donc tu as raconté en Irlande, comme tu viens de nous le dire, dans une caravane à histoire. Tu racontes en France, dans des festivals, ici en région ou hors région. Tu étais aussi récemment au Québec, par exemple. Est-ce que tu vois des différences importantes entre les publics, entre le public anglophone et francophone par rapport à la réception des histoires? Est-ce que il y a des particularités locale à connaître si un jour l'un de nous va raconter en Irlande par exemple?
Ben écoutez, oui, je trouve d'énormes différences, mais en même temps ça dépend pas forcément du pays. Ça dépend beaucoup de la qualité du, par exemple, si le public a l'habitude d'écouter des histoires, s'il a envie, s'il est nourri dans son imaginaire, dans sa culture d'histoires et de choses qui le touchent comme ça, je trouve qu'ils seront plus facilement dans cet imaginaire-là. Mais c'est vrai que j'ai pu remarquer, par exemple, je suis allée au Québec là dernièrement et waouh, c'était fou! Tu dois connaître, ils réagissent très vite, ils rient, puis parlent, puis te répondent quand t'es sur la scène, ils te disent ah ouais, vous êtes de trucs, puis tu commences une conversation, et c'est vraiment, c'est super chouette. Et je trouve que justement dans le Nord, les gens, ils ont une très bonne écoute. C'est vraiment un public qui est captivante, qui est captivé et qui a envie de tu sens dans, c'est vrai, il y a moins de rire fou tout le temps, de discours, etc., de paroles au milieu de ton histoire, mais tu sens vraiment leur présence très très fort, et ça c'est chouette.
On va passer au morceau de choix, donc au spectacle Ghost Dance, que tu vas proposer vendredi soir en création à la Maison Folie de Moulins. Ce sera à 20h. Il y aura d'autres dates après. On va les repréciser en fin d'émission. Comment ce spectacle est-il né? Comment cette envie de spectacle est-il né dans ton esprit? Qu'est-ce qui a été le déclic?
Alors le déclic, c'était quand je suis revenue de Nouvelle-Calédonie, où j'avais travaillé avec les Kanaks, et je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas les natifs de mon propre pays. Et j'avais honte. Et je me suis rapprochée des Indiens américains, donc les natifs américains. Notamment, je suis allée sur la tribu des Sioux, donc les Sioux Lakota, ils s'appellent Lakota, Sioux c'est un diminutif. J'ai pu assister à un événement extraordinaire. C'était le sommet des nations indiennes. Et c'était mené par Oweaku, qui est une association qui avait en fait participé un peu comme dans le mouvement de Martin Luther King, de Malcolm X, dans le mouvement de American Indian Movement. Alors on était réunis sous un chapiteau de cirque de fortune dans les Badlands en plein août avec des serpents à sonnettes, c'est un peu comme je dis dans l'histoire, qui se retrouvaient parfois sous les tentes, etc. Mais il était venu au sommet de ces nations indiennes, l'Alliance guerrière du Canada, des Indiens de toute l'Amérique du Sud, et chaque jour arrivaient de nouveaux Indiens qui venaient à dos de cheval, à cru, effectivement, des fois torse nu, pas les femmes, mais les hommes, et qui chevauchaient depuis déjà 7 jours. Et ces Indiens, ils étaient extraordinaires parce que, bon, ils étaient parfois en habits traditionnels, mais ils avaient leur Macintosh, ils avaient la radio antenne qu'ils avaient piratée, où ils reliaient toutes les informations de cette nation, sommet des Nations Unies des Indiens, directement dans leur tribu, dans leurs réserves partout sur le continent des États-Unis, de l'Amérique surtout, tu vois, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Canada, et en même temps la poussière, les mouches qui volaient, et on mangeait du bison matin, midi et soir. C'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire.
Et quelle recherche as-tu faite pour ce spectacle ? Sur quelles histoires, sur quels écrits t'es-tu basé pour recréer ce spectacle ?
Eh bien, c'était une très longue recherche parce que à partir de cette rencontre, de cet événement qui m'a évidemment inspiré et touché profondément, donc j'ai continué à fréquenter la réserve et à discuter avec les gens. J'ai enregistré énormément d'histoires de vie et puis d'histoires tout court des natifs américains que je rencontrais là. Après, j'ai fait aussi des recherches, j'ai lu des livres d'histoire. Et c'était un énorme travail. Je me suis dit, mais je voudrais raconter l'histoire des Indiens. Mais c'est trop immense. Et même si je réduis à l'histoire des Sioux, Lakota, ben là, c'est déjà trop immense. Et comment je fais ? Par quel bout le prendre ? Il y avait tellement de choses à dire. Et enfin, j'ai trouvé, je me suis dit, il faut une histoire, une seule histoire. Et là, j'ai trouvé dans un très vieux livre une histoire qui était éditée dans la librairie de Congrès des États-Unis, un truc très très petit, tu vois, qui n'était pas très diffusé. Et il y avait une histoire du garçon Caillou. C'était un médecin qui est allé sur la tribu juste après que tous les Indiens soient revenus sur la réserve, après qu'ils étaient défaits, après Custer et tout ça, vers 1895. Eh bien, ce médecin, il avait récolté des histoires de la bouche des Indiens conteurs. Et une de ces histoires, c'était celle du garçon Caillou. Une histoire extraordinaire, une histoire très, très complexe et très beau et très fort. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, qui a lu cette histoire, a dit que c'était l'un des plus dramatiques, les plus beaux et les plus riches de toute la littérature américaine. Donc c'est pas pour peu dire. Et cette histoire m'a passionnée, et c'est cette histoire-là que vous trouverez au sein de Ghost Dance.
D'accord, mais ça c'est du teasing, ça c'est superbe. On a envie d'aller la voir, l'écouter, mais cette histoire.
Tant mieux, j'ai envie de vous le raconter, donc ça tombe bien.
Il faut attendre vendredi. La musique américaine, elle est présente également dans le spectacle. Tu nous as dit que tu avais une carrière de chanteuse au tout début. Une volonté de ouais, chanter. Est-ce que la musique américaine est présente dans le spectacle, et quel type de musique?
Écoute, oui, j'ai pas pu m'empêcher parce que j'adore ça. Alors j'ai choisi 2-3 morceaux, dont un morceau de Elizabeth Cotten, qui est une noire américaine, qui est malheureusement morte maintenant, mais une femme qui avait une voix extraordinaire et une façon d'interpréter des chansons. Alors je ne serai pas à sa hauteur, mais je vais quand même offrir cette chanson au public et d'autres chansons qu'on identifie avec l'Ouest, la prairie, etc. au fur et à mesure du spectacle.
Alors, on va en venir justement à celui que l'on a cité tout à l'heure, parce que tu as travaillé sur ce spectacle avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui est Alberto Garcia Sanchez, qui est venu ici dans la région déjà proposer ses propres spectacles, le dernier Machin Truc, par exemple, lors du dernier festival Conteurs en Campagne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les conteurs. On peut dire qu'il est metteur en scène, mais comment il est intervenu sur le spectacle, quel était son rôle sur le spectacle ? Est-ce que c'est uniquement un rôle de metteur en scène ?
Ben écoute, déjà j'ai envie de dire d'emblée que j'ai eu une chance absolument inouïe de pouvoir travailler avec ce monsieur. C'était un rêve de longue date. J'avais contacté Alberto il y a très longtemps en lui disant que j'avais envie de travailler avec lui. Et il est très pris, hein, il faut dire, parce qu'il travaille énormément. Et puis je lui ai parlé de ce projet en particulier. Parce que j'avais vu de nombreuses de ses pièces, je l'avais vu jouer et je savais que vraiment je ne pouvais imaginer autre personne intervenir et m'aider avec ce spectacle-là. Parce que c'est quelqu'un qui est très engagé, il connaît l'histoire des Indiens parce qu'il a joué lui aussi un spectacle de Dario Fo sur la colonisation de l'Amérique du Sud. Et il avait travaillé avec différents conteurs et ce que j'avais adoré dans son travail... C'est que, et ça je trouve que c'est vraiment le marque des meilleurs metteurs en scène, c'était un travail invisible. Chaque spectacle que j'ai vu de lui, que ce soit de Nadine Walsh, que ce soit de Michel Nguyen, que ce soit de Mélancolie Maud, on ne voyait pas son travail, on voyait le spectacle et chaque spectacle était vraiment unique. Et je me suis dit, là, c'est un monsieur qui est vraiment brillant. Et quand il a... Donc, je lui ai dit tout ça dans ma lettre. Et quand il a accepté, j'avais l'impression que j'avais gagné un prix. C'était extraordinaire. Donc, oui, il est intervenu dans ce spectacle sur chaque mot. Il est vraiment incroyable. Il est tellement exigeant. Mais en même temps, très généreux et tellement, tellement intelligent. C'est extraordinaire parce que lui, il est espagnol. Moi, je suis américaine d'origine, je suis anglophone. On parlait une langue commune dans laquelle on a donné ce spectacle-là, aux Français. Mais lui, même si il parlait pas mieux le français que moi, mais il avait une intelligence de dramaturgie. Mais je pense que ça dépasse toutes les langues. C'est extraordinaire. Donc, il est intervenu sur toute la dramaturgie, sur la structure du spectacle, sur les mots qu'on choisissait, sur les images, sur même la psychologie des personnages, de tout le placement, de tout ce que le public allait entendre et voir pour qu'il puisse vraiment rentrer dans ce monde. Et il a fait un travail immense.
Ma dernière question, ce sera comment tu te sens à deux jours de la première du spectacle ? Quel est ton état d'esprit ?
Écoute, I am so happy. Je suis tellement contente d'enfin jouer ce spectacle. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Et j'espère seulement qu'il trouvera une voie, pas parce que, seulement parce que je pense que c'est un spectacle qui mérite. Et c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Voilà.
Merci Mélissa. Alors donc, on va rappeler que tu seras samedi soir, le 20 février, à 20h, sur la scène de la Maison Folie Moulin avec la première de Ghost Dance. Mm-hmm. Dire aussi que ça se situe dans un cadre plus large, qui est celui du Festival des Contes et Légendes mm-hmm. De Marc-en-Barœul, mais qui se décentralise parfois. Comme
et
là,
le Festival M de la Maison Folie Moulin.
De la Maison Folie de Moulin. Et que sur Marc-en-Barœul, on peut encore applaudir. Par exemple, ce week-end, pour ceux qui n'auraient pas le bon goût de venir voir Mélissa, ils peuvent aller écouter en même temps. Il y a Ahmed Bouzine à Marc-en-Barœul, qui est aussi un très très bon conteur, faut le dire. Vendredi soir, il y a une scène partagée entre Ahmed Bouzine et Philippe Campiche, ces deux fameux conteurs, donc on peut vous les conseiller également, quand même. Vous dire que Ghost Dance, on pourra aussi l'entendre, finalement peut-être un peu plus près d'ici, le 4 mars, au Centre culturel Henri Matisse de Noyelles-Godault, lors de deux séances à 10h15 et à 14h15. Donc il y a deux séances au Centre culturel Henri Matisse. Dire qu'ensuite, on pourra te retrouver en avril à Templeuve, et puis que ce spectacle devrait vivre sa vie, et puis d'autres dates seront sûrement prévues par la suite. Et puis rappeler aussi, on n'a pas pu en parler parce qu'on n'avait pas le temps, mais qu'il y a d'autres spectacles que tu proposes, des contes irlandais, des séances pour le jeune public ou le très jeune public, et que tout ça on peut le retrouver, on peut retrouver le détail de ces spectacles et ton agenda, des photos, etc., etc., sur ton site Mélissa Becker tout collé .eu. Donc on invite les gens qui voudraient aller plus loin à se rendre sur ce site. Moi, Je te remercie beaucoup. Hein, ça, je pense
merci
que ça a donné envie
toi,
d'aller,
Anthony.
D'aller découvrir cet univers-là. Et puis, je vous dis au mois prochain. Et Christophe, c'est à toi.